France Musique.
La danse de Nana. À sa première lecture de Nana, Flaubert écrit à Zola : J'ai passé hier toute la journée jusqu'à 11h30 du soir à lire Nana. Je n'en ai pas dormi cette nuit et j'en demeure stupide. S'il fallait noter tout ce qu'il s'y trouve de rare et de fort, je ferais un commentaire à toutes les pages. Les caractères sont merveilleux de vérité. Et la fin, la mort de Nana, est michel-angélesque. Dans son enthousiasme, Flaubert corne toutes les pages qui l'ont excité et note dans sa correspondance « Nana tourne au mythe, sans cesser d'être réelle, cette création est babylonienne ». Que voulait-il donc exprimer avec ces termes qu'il emploie si rarement? Et pourquoi relier le mythe au réel, le sacré au profane? Et cette page parmi ses remarques, où Gustave Flaubert relève tout ce qu'il a admiré, là où Nana se balance, nue, devant le miroir, comme, écrit-il, une almée dansant la danse du ventre. Souvenir d'une danseuse égyptienne, Flaubert a certainement à l'esprit la danse de Salomé, qui fascine la deuxième moitié du XIXe siècle. Sa représentation détaillée, la première du genre dans la littérature française, qu'il offre à son œuvre Hérodias, publiée en 1877, 3 ans avant la parution retentissante de Nana. Un an après la publication de 3 contes, Zola commence en août 1878 à faire des enquêtes sur les cocottes auprès de ses amis. Le premier feuilleton paraît le 16 octobre et le roman le 15 février 1880. La même année, Zola et le groupe des naturalistes offrent à Gustave Flaubert les soirées de Médan. « À notre ami et maître, Gustave Flaubert », lui adresse-t-il, suivi de leur signature. Nana aurait-elle quelques inspirations flaubertiennes? Ainsi, le voyage et le retour de Nana à Paris du dernier chapitre nous rappellent la disparition, le voyage et le retour de Frédéric à l'avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale. Et de retrouver aussi Madame Bovary avec la cacophonie des voix dans la chambre de la morte ou de la foule criant à Berlin. Enfin, la fin du chapitre 10 de Nana avec la grêle qui sonne et la fin du dernier chapitre de Salammbô sous la tente. Gustave Flaubert, précurseur du mythe de la femme fatale, est le premier écrivain à décrire la danse de Salomé d'une façon si réaliste, en s'appuyant sur ses propres observations lors de ses voyages en Orient. Ainsi, il décrit cette fameuse danse qui relie l'image de la Salomé, dansant les talons en l'air sur le portail latéral de la cathédrale de Rouen, à celle de Ryushukanem, cette almée égyptienne avec qui il a passé une nuit lors de son voyage en Orient. Ryushukanem et Bambay, écrit-il sur ses notes, se mettent à danser. La danse de Ryushuk est brutale. Elle se serre la gorge dans sa veste, de manière que ses deux seins découverts sont rapprochés et serrés l'un près de l'autre. Pour danser, elle met comme une ceinture pliée en cravate un châle brun à raies d'or avec 3 glands suspendus à des rubans. Elle s'élève tantôt sur un pied, tantôt sur un autre, chose merveilleuse. Un pied restant à terre, l'autre se levant, passe devant le tibia de celui-ci, le tout dans un saut léger. L'auteur a vu cette danse sur des vieux vases grecs. La chambre était illuminée par 3 mèches dans des verres pleins d'huile mis dans des girandoles de fer blanc accrochées au mur. Les musiciens sont à leur poste. Ryushuk nous danse l'abeille. Elle doit se dénuder. Elle accepte à contre-cœur. Mais voici la danse de Salomé, telle qu'on peut la lire dans trois contes Hérodias. Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre, lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les chalcédoines ou petits cristaux de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie, gorge de pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores et d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile, puis elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon, comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingra, petite flûte au son nasillard, remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Puis ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Puis une harpe chanta, la multitude y répondit par des acclamations. Dans Nana d'Émile Zola, les termes employés par l'auteur sont plus brutaux. On retrouve toutefois une même représentation de la danse du ventre avec le balancement. Dans la scène où Nana se tient nue devant le miroir, elle finit par se plaire au singulier jeu de se balancer, à droite, à gauche, les genoux écartés. Là où, sans fléchir ses genoux en écartant les jambes, Salomé se courbe. Si celle-ci se meurt dans la caresse d'un dieu, les paupières entrecloses, Nana, elle, se complaît, les yeux mi-clos, sa bouche entr'ouverte, son visage noyé d'un rire amoureux. Enfin, si Salomé balance son ventre avec des ondulations de houle, décrit Flaubert, chez Nana, une ligne fine, à peine ondée par l'épaule et la hanche, file d'un de ses coudes à son pied. La fin de la danse montre en gros plan le visage de Salomé, des gouttelettes à son front, comme sur du marbre blanc, alors que le spectacle de la blonde Vénus s'achève sur la victoire de sa chair de marbre. Nana tourne au mythe, sans cesser d'être réelle. Cette création est babylonienne, affirme Flaubert. Or, l'ampleur de ces mouvements itératifs de Nana dépasse la sphère de la danse. En faisant tourner la société comme une mouche d'or, une mouche dansante et fatale, elle provoque l'effondrement de Paris. Car sa mort bien réelle par la petite vérole, funeste maladie des prostituées, contamine alors la société. Danse de Nana, danse de Salomé, ou le mythe de la débâcle babylonienne.
Thank you. réécouter sur francemusique.fr.